Imaginez un instant. Vous êtes à un dîner de famille, l'ambiance est super chaleureuse, le panier de pain passe de main en main au-dessus de la table. Pour la plupart des gens, c'est un geste d'une banalité absolue.
Bien sûr.
Mais pour vous, une simple miette, une petite miette invisible tombée par inadvertance sur votre assiette, bah c'est pas un détail. C'est une menace sérieuse. Le déclencheur d'une vraie guerre silencieuse à l'intérieur de votre propre corps. Une attaque où votre système immunitaire va littéralement se retourner contre vos propres organes.
Ouais.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chemins de la vie. Avec l'autrice Jida Ayad, aujourd'hui nous allons parler de la vie avec la maladie cœliaque. Pour comprendre que le sans gluten est bien plus qu'une question d'assiette, c'est un véritable traitement médical.
Et c'est un sujet d'une importance capitale, en fait, pour poser d'emblée les sens de ce qu'on va explorer aujourd'hui. Le régime sans gluten, c'est pas du tout une mode passagère.
Non.
C'est pas une coquetterie diététique ou un choix de confort. C'est vraiment l'unique thérapie, elle est vitale et non négociable pour cette maladie.
Ouais.
Et accepter ce traitement, bah, ça implique un bouleversement complet. Ça abîme parfois le corps, ça épuise l'esprit avec une charge mentale constante et ça bouscule nos relations sociales.
C'est clair.
Donc tout l'enjeu de notre discussion, c'est de comprendre comment on peut transformer cette injonction médicale ultra stricte en un vrai levier, tu vois, pour se reconstruire, retrouver son énergie et finalement apaiser son rapport à la nourriture et à soi-même.
Exactement. Et tu sais, j'entends super souvent le terme d'intolérance. On dit intolérance au gluten.
Tout le temps.
Comment on dirait intolérance au lactose. Et du coup, inévitablement, on se dit que bah, si on en mange par erreur, on aura mal au ventre pendant quelques heures.
Voilà, on digère mal.
C'est ça. On se dit on va mal digérer et puis ça passera avec un peu de repos. Mais d'après nos recherches pour ce dossier, ce mot d'intolérance, il est non seulement faux, mais il est presque dangereux en fait.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps quand on ingère cette fameuse protéine ?
Bah, c'est une confusion qui est extrêmement fréquente. Le lactose, pour faire simple, c'est une incapacité purement mécanique à digérer un sucre, parce qu'il nous manque une enzyme, quoi.
D'accord.
Mais la maladie cœliaque, c'est pas du tout un problème de digestion, c'est une maladie auto-immune.
Ah ouais.
Concrètement, chez une personne qui a une prédisposition génétique, le système immunitaire, il va faire une erreur d'identification massive.
Une erreur, c'est-à-dire ?
Bah, quand le gluten, qui est une protéine présente dans le blé, l'orge ou le seigle, quand il arrive dans l'intestin grêle, le corps ne le perçoit pas du tout comme un aliment. Il le perçoit comme un envahisseur redoutable.
Un peu comme si le système d'alarme de la maison, il confondait le facteur qui vient déposer une lettre avec un cambrioleur armé, quoi.
C'est exactement ça, c'est une super image. Mais la réalité est encore plus destructrice. Parce que le système immunitaire, il ne se contente pas d'attaquer le facteur.
Ouais.
Dans sa panique, il déclenche un tir ami. En fait, il déploie des anticorps qui vont attaquer les propres tissus de la personne.
Ouais, ouais.
Et spécifiquement, la muqueuse de l'intestin grêle. Et la ligne de front de cette bataille, ce sont les villosités intestinales.
Ces fameuses villosités. C'est un terme très clinique, mais j'aime bien utiliser une image visuelle pour qu'on se représente les choses en douceur.
Ouais, vas-y.
Souvent, on visualise notre intestin comme un long tuyau d'arrosage, tu sais, bien lisse à l'intérieur.
C'est vrai.
Mais en réalité, la paroi de notre intestin grêle, elle ressemble plutôt à une immense moquette très épaisse ou à une éponge extrêmement texturée, quoi.
Oui, complètement.
Elle est recouverte de millions de petits capteurs, de petits poils microscopiques. Et ce sont ça, les villosités. Leur rôle, c'est d'attraper et d'absorber tous les nutriments, les vitamines, le fer, qui passent dans notre nourriture.
Exactement.
Et si je comprends bien le mécanisme de la maladie, c'est comme si la guerre immunitaire venait poncer cette belle moquette.
C'est ça, c'est vraiment une destruction physique, architecturale même. L'inflammation chronique va littéralement raboter et aplatir cette paroi.
Ah ouais.
La moquette, elle devient complètement lisse. Les capteurs, ils disparaissent ou ils s'atrophient tellement qu'ils ne fonctionnent plus du tout. Et c'est là qu'il faut relier la cause à la conséquence. Si l'intestin devient une surface lisse, la nourriture glisse dessus sans pouvoir être absorbée, l'organisme entier se retrouve privé de son carburant.
C'est un paradoxe terrible, en fait. On peut faire 3 repas copieux par jour, manger à sa faim et être littéralement en train de mourir à petit feu, de se dénutrir de l'intérieur.
Ouais. C'est le drame de la malabsorption. Et les conséquences sont tentaculaires. Cette privation de nutriments, ça entraîne une fatigue écrasante que le sommeil ne soulage pas.
Mon Dieu.
On observe des anémies profondes parce que le fer n'est plus assimilé, des pertes de poids inexpliquées, et plus grave encore à long terme, on voit apparaître des troubles osseux.
Genre quoi ?
Genre de l'ostéoporose précoce, car le calcium n'est plus fixé, il y a même des cas d'atteinte neurologique.
Waouh !
Et ce qui rend le dépistage si complexe, c'est que la maladie travaille parfois dans un silence absolu, tu vois. Chez certains patients, il n'y a aucune douleur à l'estomac, aucun symptôme digestif bruyant.
C'est terrifiant, cette idée de destruction silencieuse. Et ça explique en grande partie pourquoi on entend des témoignages de personnes qui errent pendant des années, tu sais, de médecin en médecin, avant de comprendre ce qu'elles ont.
Totalement.
D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé, la AAS, a publié des recommandations de bonnes pratiques, très strictes à ce sujet-là, le 28 juillet 2026. Ils insistent énormément sur les formes atypiques de la maladie, mais il y a un point de cette recommandation qui m'interpelle particulièrement.
Lequel ?
Il est formellement déconseillé de commencer un régime sans gluten par soi-même avant d'avoir vu un médecin. Mais si je suis épuisé, que j'ai des doutes sur le gluten et que je veux faire un test sur mon propre corps, pourquoi je pourrais pas juste arrêter une semaine pour voir si je retrouve de l'énergie ? C'est instinctif comme démarche.
Ah bah, c'est l'instinct de survie, c'est clair. Mais c'est une erreur stratégique sur le plan médical.
Pourquoi ?
Parce que pour qu'un médecin puisse diagnostiquer la maladie de façon certaine, que ce soit via une prise de sang pour repérer les anticorps ou lors d'une biopsie pour observer les dégâts sur tes villosités, il faut impérativement que la guerre immunitaire soit en cours.
Ah, je crois comprendre.
Si tu arrêtes de consommer du gluten avant les examens, tu retires le déclencheur de la maladie.
Donc le système immunitaire range ses armes et l'inflammation commence à diminuer, c'est ça ?
Voilà. Ton intestin commence lentement à cicatriser et quand tu vas faire ta prise de sang ou ton endoscopie quelques semaines plus tard, bah, les résultats peuvent revenir faussement négatifs.
Ah, la cata.
Le médecin va regarder les résultats, il va te dire « tout va bien, vous n'êtes pas cœliaque », alors qu'en réalité, tu l'es.
Ouais.
Et tu te retrouves dans une impasse. Sans diagnostic officiel, sans suivi médical pour tes carences et sans le cadre de soins approprié.
Ça doit être une période tellement dure à traverser. Parce qu'il faut continuer à s'exposer à ce qui nous rend malade pour que la pathologie soit visible sous le microscope.
C'est ça. Mais c'est le seul moyen d'obtenir un diagnostic fiable.
D'accord. Admettons que j'ai traversé cette épreuve. Le diagnostic est posé, noir sur blanc, c'est officiel. Le traitement commence. On élimine totalement le gluten. Les mois passent. Ma muqueuse intestinale se reconstruit. Ma fameuse moquette retrouve tous ses capteurs. Mon fer remonte en flèche et je déborde d'énergie. Est-ce qu'à ce stade... Tu sais, un peu comme pour un plâtre qu'on retire quand un os est enfin soudé.
Ouais, je vois venir la question.
Est-ce que je peux m'autoriser des exceptions ? Juste une petite tranche de pain frais pour un anniversaire ou un plat de pâtes au resto une fois par an ?
C'est la question que posent presque tous les patients, en fait. Parce qu'il est très très dur d'accepter l'irréversibilité. Mais la réponse est catégorique. C'est non.
Jamais.
Jamais. Se sentir guéri, ne plus avoir de fatigue ou de douleur, ça signifie en aucun cas que la maladie a disparu. La maladie cœliaque, c'est une pathologie génétique, elle est inscrite en toi. Ton système immunitaire garde une mémoire absolue de cette protéine.
Donc même si je me sens invulnérable, la moindre miette va réveiller l'armée.
Instantanément. Si tu réintroduis le gluten, même de façon ultra exceptionnelle, la réponse immunitaire pathologique va se redéclencher dans les heures qui suivent. Les dommages sur tes villosités vont reprendre.
Waouh.
Et c'est un point très insidieux. Les symptômes extérieurs, comme la douleur ou la fatigue, bah, ils mettent parfois des semaines à réapparaître.
Ah ouais.
Tu pourrais manger une pizza, te sentir parfaitement bien le lendemain et penser que t'es guéri. Mais à l'intérieur, l'inflammation fait déjà des ravages.
D'où le fait que c'est pas une cure thermale de quelques mois, quoi. C'est un compagnon de route pour la vie entière.
Exactement.
Et puisque la nourriture devient notre médicament quotidien, ça soulève une logistique immense. Que va-t-on mettre dans son assiette tous les jours, matin, midi et soir ?
Bah oui.
Quand on entend sans gluten, la première image qui vient en tête, c'est le rayon diététique du supermarché. On achète le pain emballé sous plastique, les paquets de gâteaux avec le gros logo barré, et on se dit que le problème est réglé, quoi.
On a juste remplacé un produit par un autre.
C'est ça.
Et c'est là que se referme l'un des plus grands pièges du diagnostic. C'est ce que l'autrice appelle le mythe de l'auréole santé du sans-gluten.
L'auréole santé ?
Ouais. On a tendance à associer automatiquement l'étiquette sans-gluten à la notion de nourriture saine.
Ah bah oui, totalement.
Et l'industrie agroalimentaire s'est engouffrée là-dedans. Mais il faut comprendre ce qui se passe chimiquement, en fait. Le gluten, c'est ce qui donne l'élasticité, le moelleux et la structure à une pâte. Quand tu l'enlèves, tu obtiens un produit hyper friable et sec.
Un peu comme du carton. J'imagine que pour compenser cette texture, les industriels y font pas dans la dentelle.
Bah non. Ils ajoutent des additifs texturants, beaucoup de matières grasses pour retrouver le moelleux et souvent énormément de sucre pour masquer le goût.
À l'horreur.
Le résultat, c'est qu'un produit industriel de substitution sans gluten, bah, elle est très souvent ultra transformée, plus calorique et paradoxalement beaucoup plus pauvre en fibres que son équivalent conventionnel.
Ce qui m'amène à une réflexion hyper puissante de l'autrice dans nos sources. Elle pointe du doigt une vraie absurdité. Remplacer un biscuit industriel au blé par un biscuit industriel sans gluten, ça ne guérit pas le corps.
Non.
Oui, ça évite de déclencher la réaction auto-immune. C'est le minimum syndical. Mais ça nourrit absolument pas un organisme qui a été épuisé par des années de carence. Si je me contente de manger du pain de mie sans gluten et des pâtes de maïs, bah, je passe à côté de l'essentiel.
C'est ça. Il faut vraiment avoir une vision réparatrice de la médecine. Les carences liées à la maladie avant sa découverte, on parlait du manque de fer, de zinc, de vitamine B12, de vitamine D, ça rend la qualité nutritionnelle de la nouvelle alimentation vraiment primordiale. Si tu te contentes de produits de substitution, tu risques de développer de nouvelles carences liées cette fois-ci à la pauvreté de ton assiette, quoi.
Ouais.
Le vrai conseil thérapeutique de l'autrice ici, c'est d'opérer un changement de paradigme. Face au diagnostic, on a tous le même réflexe, on regarde son frigo en se demandant
« Qu'est-ce que je dois supprimer ?»
Voilà, qu'est-ce que je dois jeter ? Alors que l'invitation, c'est de regarder son assiette et de se demander « Avec quoi je vais pouvoir me reconstruire ?»
Mais comment on fait ça sans avoir l'impression de manger des légumes vapeur super tristes à chaque repas ? Quand le pain, les pâtes, la semoule, les pizzas s'effacent de la carte, on a vraiment l'impression d'être face à un vide immense.
On remplit ce vide en revenant à des aliments bruts, en fait, vivants et naturellement diversifiés. Elle nous rappelle une vérité fondamentale. Le sans gluten n'est pas né dans l'usine d'une marque de supermarché.
C'est clair.
Des civilisations entières se sont développées sur des céréales qui n'ont jamais eu besoin de blé pour exister. C'est l'occasion de redécouvrir le sarrasin, par exemple, qui a un goût de noisette incroyable. Le quinoa, le millet, l'amarante, le riz, le maïs, ce sont des farines anciennes.
Et il n'y a pas que les céréales.
Non. À côté de ça, il y a toute l'abondance du monde naturel. Les légumineuses, comme les pois chiches ou les lentilles, les légumes de saison, les fruits, les œufs, les poissons, les viandes.
D'ailleurs, pour amorcer cette transition sans angoisse, il y a un exercice tout simple et très doux suggéré dans notre dossier, le scan de l'assiette.
Ah oui, très bon exercice.
Au lieu de scruter son plat avec méfiance, tu sais, en cherchant l'ennemi, on change de posture mentale. On se pose des questions bienveillantes, du genre « Où est ma source de protéines aujourd'hui ? Est-ce que j'ai intégré assez de fibres ? Quels végétaux colorés j'ai choisi ?» Finalement, on se demande « Est-ce que ce repas respecte et répond aux besoins profonds de mon corps ?»
C'est ça.
C'est une manière très concrète de reprendre le pouvoir, en fait.
C'est un exercice d'ancrage remarquable. Ça redonne à l'alimentation sa fonction première, nourrir le vivant.
Ouais.
Mais bon, faut être honnête sur un point. Faire ce scan et préparer de beaux repas diversifiés dans le cocon sécurisant de sa propre cuisine, où tu maîtrises chaque ingrédient, c'est une chose. Sortir de chez soi en est une autre. Et c'est ce qui nous amène à la dimension la plus éprouvante et pourtant la plus invisible de cette maladie, la charge mentale.
Et ça, c'est vraiment le point qui m'a le plus bousculé en préparant cette émission. On focalise toujours sur l'estomac, sur les intestins. Mais la véritable zone de combat au quotidien, c'est la tête.
Complètement.
Le cerveau d'une personne cœliaque est en hypervigilance constante. Pour la majorité des gens, s'asseoir à la terrasse d'un resto, c'est un moment de lâcher prise. Mais pour une personne atteinte de cette pathologie, ça ressemble d'abord à un audit de sécurité sanitaire, quoi.
Le terme d'audit est parfait. Les questions, elles tournent en boucle, de manière épuisante. Est-ce que cette sauce contient un épaississant à base de blé ? Le serveur a-t-il vraiment compris la gravité de ma demande ou il pense que je fais un régime minceur ? Est-ce que je peux manger ces frites ?
C'est épuisant.
Et derrière toutes ces questions, il y a un concept scientifique majeur qu'il faut absolument maîtriser. C'est la contamination croisée.
J'aimerais qu'on s'y attarde là-dessus. Si je suis au restaurant, que je commande une salade composée et qu'elle arrive avec des petits croutons de pain sur le dessus, mon réflexe naturel, ce serait de dire « Ok ». Je retire les croutons, je les mets sur le bord de l'assiette et je mange le reste. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est une erreur fondamentale ?
Parce que les miettes que les croutons ont laissées derrière eux, sur tes feuilles de salade, elles suffisent amplement à déclencher la maladie.
Ah ouais ?
La contamination croisée, c'est le transfert involontaire de traces de gluten vers un aliment qui n'en contient pas naturellement. Si le cuisinier utilise la même cuillère pour remuer des pâtes au blé puis ton riz,
ouais.
Si le boulanger pose ton pain sans gluten sur le même comptoir qui est couvert de farine volatile, si même chez toi, tu utilises le même grille-pain pour le pain normal et le pain sans gluten, l'exposition, elle est là.
C'est fou.
Des quantités microscopiques invisibles à l'œil nu, ça déclenche la réaction auto-immune.
C'est vertigineux quand on y pense. Ça implique de se méfier, je sais pas, d'une spatule en bois poreuse, de l'huile d'une friteuse qui a servi à cuire des beignets, de la planche à découper du boucher. Je comprends beaucoup mieux pourquoi les études médicales pointent des niveaux très élevés d'anxiété et un risque réel d'isolement social chez ces patients.
C'est énorme.
C'est tellement lourd à gérer qu'il doit y avoir des jours où l'on préfère simplement décliner une invitation à dîner juste pour s'épargner ce flux d'angoisse et pas avoir à se justifier, quoi.
Et c'est pour cela qu'il faut apporter une validation émotionnelle très forte. Être épuisé par cette logistique, c'est pas faire un caprice.
Non.
C'est pas être trop exigeant ou maniaque. C'est porter le poids d'un traitement qui ne connaît pas de pause. L'enjeu de la prise en charge, cependant, c'est de trouver un équilibre. L'objectif n'est pas de vivre cloîtré dans la terreur du gluten. L'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la maîtrise.
Quelle différence tu fais entre la peur et la maîtrise dans ce contexte précis ?
La peur, c'est subir son environnement et s'isoler. La maîtrise, c'est apprendre à anticiper et à sécuriser cet environnement. C'est savoir appeler un chef de restaurant 48 heures à l'avance pour lui expliquer la maladie, calmement, hors du coup de feu du service.
D'accord.
C'est apprendre à lire les étiquettes avec une grande rapidité. C'est avoir sa petite réserve de sécurité quand on part en voyage.
Mais par-dessus tout, la maîtrise, c'est apprendre à dire « non, je ne peux pas manger ça » sans aucune once de culpabilité. Refuser un plat douteux, c'est pas offenser son hôte, c'est prendre son médicament.
Ouais.
Sauf que le regard des autres est tellement pesant. Devoir constamment s'affirmer, ériger cette barrière de protection au milieu d'un repas de famille, ça modifie inévitablement notre rapport au monde. Et plus intimement, ça bouscule notre propre identité.
Oui.
Il y a un avant et un après le diagnostic. On perd la spontanéité d'attraper, tu sais, un croissant sur le quai d'une gare quand on est en retard.
C'est sûr.
Et ce deuil-là, le deuil d'une vie alimentaire insouciant, il me semble souvent vachement minimisé par l'entourage.
Complètement minimisé. Parce que l'entourage se concentre sur le soulagement du diagnostic, tu vois. Les proches voient la personne reprendre des couleurs et lui disent « C'est merveilleux, t'es plus malade. Il te suffit juste d'éviter le pain. »
C'est ça. C'est pas si grave.
Voilà. Et ils omettent la dimension sociale et culturelle de l'alimentation. La nourriture, c'est nos souvenirs d'enfance, c'est la convivialité, c'est le partage. Perdre ça brutalement, ça crée un sentiment de décalage profond. On a l'impression de ne plus appartenir au groupe, d'être un peu le cas particulier à chaque repas. C'est un véritable deuil à traverser.
Et face à ce deuil, je trouve l'approche de l'autrice d'une immense justesse. Elle pose cette phrase comme un mantra. Tu as une maladie cœliaque, mais tu n'es pas seulement une personne cœliaque.
Et c'est la clé de voûte de la reconstruction psychologique. Le risque majeur d'un diagnostic aussi envahissant, c'est que la contrainte thérapeutique devienne une prison mentale.
Ouais.
La maladie, elle ne doit pas absorber toute l'identité de l'individu. Le régime sans gluten, c'est un outil pour protéger le corps et permettre à la personne de vivre ses passions, de voyager, de travailler, d'aimer en pleine santé.
Bien sûr.
Pour éviter que la maladie prenne toute la place, il faut vraiment rééduquer la façon dont on perçoit sa propre vie.
Et on parle d'un véritable travail d'ancrage. Nos sources suggèrent d'ailleurs de mettre en place des rituels très concrets, parfois dès le réveil. Prendre quelques secondes le matin pour définir une intention claire. Par exemple, se dire « Aujourd'hui, je choisis de ne pas me concentrer sur ce que ce régime m'enlève, mais je choisis de construire ce que je peux devenir avec ce nouveau corps ». Ça peut paraître symbolique, hein, mais psychologiquement, ça empêche de sombrer dans l'amertume.
La plasticité de notre cerveau, elle est telle qu'il s'adapte à ce sur quoi on focalise notre attention. Si l'on ne regarde que la privation, on entretient la souffrance. Et pour aider à ce basculement, il y a un exercice d'introspection qui est redoutablement efficace. C'est l'exercice des deux colonnes.
Comment ça marche ?
On prend une feuille et dans la première colonne, on y déverse sans aucun filtre tout ce que l'on ressent avoir perdu. Les pizzas le vendredi soir, la facilité de manger n'importe où, les gâteaux de son enfance, la frustration face à l'incompréhension des serveurs.
Tout ce qui fait mal, quoi.
Voilà. Voilà, on valide cette colère, on lui donne de l'espace.
Et c'est essentiel de ne pas faire de positivité toxique. On a le droit de détester cette première colonne. Mais toute la magie opère quand on passe à la deuxième. Qu'est-ce qu'on y met dans cette deuxième colonne pour faire contrepoids?
Eh bien, dans cette deuxième colonne, on liste tout ce que l'on a la capacité de reconstruire ou ce que la maladie nous a paradoxalement apporté. On y écrit « J'ai découvert que j'adorais cuisiner le galette de sarrasin » ou « Je n'ai plus ces migraines chroniques et ce brouillard mental qui me gâchait la vie ».
Ah ouais.
Ou « J'ai appris à écouter les véritables signaux de mon corps ». En remplissant cette colonne, on réalise qu'on est en train de bâtir une relation beaucoup plus consciente et respectueuse avec son propre organisme.
C'est très beau. Mais comment ce basculement y s'opère dans le temps? Parce que je me mets à la place d'une personne qui vient tout juste de recevoir son diagnostic, qui a la tête qui tourne avec cette histoire de contamination croisée et qui se sent démunie.
C'est sûr.
On passe pas de la frustration de la première colonne à l'acceptation zen de la deuxième en un claquement de doigts.
Non, c'est un processus d'apprentissage, un véritable cheminement organique. Au tout début, il y a la phase où l'on subit. La contrainte s'abat sur nous, elle est extérieure, douloureuse et perçue comme injuste.
Normal.
Ensuite, on entre dans la phase d'apprentissage actif. On lit les étiquettes de plus en plus vite, on comprend les pièges de l'industrie, on identifie les bons interlocuteurs. Après vient l'organisation. On a ses marques, on connaît ses restos refuges, on a ses recettes de base, et un jour, on réalise qu'on a passé toute une semaine sans angoisser autour de ses repas.
C'est magnifique! La contrainte est devenue une seconde nature.
Exactement. Enfin, pardon, je veux dire que la contrainte s'est transformée en une compétence de vie redoutable.
Ouais.
Ce qui était un fardeau est devenu une expertise. Et c'est précisément à cet instant que commence une nouvelle forme de liberté. Le paradoxe, il est là. C'est l'hyper-contrainte médicale du départ qui, une fois digérée et maîtrisée, mène à une véritable libération. On ne guérit pas la maladie cœliaque, le corps gardera toujours cette faille. Mais on guérit profondément sa relation à la nourriture.
Je trouve que c'est une note d'une puissance incroyable pour conclure. Cela montre que le diagnostic n'est pas une fin en soi, mais vraiment le point de départ d'une reconquête de soi. Et ça m'amène à une dernière réflexion que j'aimerais partager avec tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient concernés de près ou de loin par cette maladie. Imaginez un instant, si chacun d'entre nous appliquait ne serait-ce qu'une petite fraction de cette écoute, de ce respect absolu et de cette bienveillance envers son propre corps, jour après jour. Si nous prêtions tous autant d'attention à la qualité de ce que nous mettons dans notre assiette pour nous nourrir réellement. Cette épreuve, cette contrainte vitale que la vie impose aux personnes cœliaques, ne ferait-elle pas finalement d'elles des individus bien plus connectés à leurs propres besoins profonds et infiniment plus à l'écoute d'eux-mêmes que la majorité d'entre nous qui mangeons au quotidien sans jamais nous poser de questions? Merci de nous avoir écoutés avec l'autrice Jida Ayad. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.